leur chant. Hors champ, aujourd'hui avec Abdella Taïa. Abdella Taïa, vous êtes écrivain, cinéaste, auteur de nombreux textes, Le Rouge du Tarbouche, L'Armée du Salut, Une Mélancolie Arabe, Lettre à un jeune Marocain, Le Jour du Roi, Infidèle, le dernier livre s'intitule Un pays pour mourir. Dans certains de vos textes, vous pratiquez l'autobiographie, et donc, nous qui avons lu vos livres, on a l'impression de savoir quelques fragments de votre existence. Et notamment ce moment du début de l'adolescence. Quand nous lisons certains de vos livres, Abdella Taïa, on a l'impression que vous avez vécu ce début de cette quête initiatique que constitue l'adolescence, à la fois comme un éblouissement et en même temps comme une tension permanente vers une interrogation de savoir qui vous étiez, où vous étiez. Et qu'est-ce que vous désiriez de faire de votre propre existence? Est-ce que vous étiez un existentialiste avant la lettre?
Peut-être que je l'étais à cette époque-là, mais je ne le savais pas. Je ne connaissais même pas ce mot, existentialisme, existentialiste. En revanche, j'avais très bien conscience qu'il y avait une forme de déchirure absolue qui était en train de se passer en moi vis-à-vis du monde dans lequel je vivais, le Maroc, la ville de Salé, le quartier de Haït Salam, très pauvre, une famille nombreuse et où tout d'un coup le rôle qu'on était en train de construire pour moi était tout sauf accueillant et gentil. Donc une forme de colère immense, une forme de désolement à la fois subi et petit à petit voulu a commencé. Je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une sorte d'existentialisme. Mais je retiendrai d'abord et avant tout une colère immense vis-à-vis de ce monde, donc ma famille, le quartier dans lequel je vivais, et plus grand que ça, le monde. C'est-à-dire, il y a l'enfance, on n'est pas gentil quand on est enfant, on est peut-être plus dictateur que les adultes, mais il y a tous ces gens autour de vous qui vous donnent quelque chose à travers ce qu'ils sont. J'ai découvert beaucoup de choses avec ma mère, avec mes nombreuses sœurs. J'ai découvert l'amour, la trahison, la faim pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les ventres vides tous ensemble. J'ai découvert ce que c'est être subir la dictature de Hassan II, embrasser la main de Hassan II, embrasser Hassan II quand il passait à la télévision marocaine. J'ai découvert le monde avec eux en même temps qu'eux. Et tout d'un coup, vers l'âge de 13 ans, parce que ça se voyait, ça commençait à se voir sur moi que j'étais différent, que j'étais homosexuel. Je suis homosexuel.
Et que... Mais ça veut dire quoi, commencer à se voir? Ça se voit pas?
Si, ça se voyait sur moi, pour être précis. Parce que quand j'étais petit garçon, on me disait que j'étais très efféminé. Mais quand on est enfant, quand on a 5-6 ans, on ne peut pas se maîtriser. On ne peut pas maîtriser les gestes de son corps, on ne peut pas maîtriser l'élan qu'on a dans la vie. On a beau avoir des moqueries, des insultes, des jets de pierre et tout ça, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose en nous qui va vers la vie. À l'âge de 13 ans, il y a tout d'un coup les dictats de la vie, non seulement les dictats de la société, de la politique, de la religion, qui tout d'un coup devenaient des ordres affirmés, prononcés par les bouches des gens que j'aimais le plus, ma mère, mes sœurs, tout ça. Tous ces gens, je les adorais, je les admirais. C'était pour moi des gens qui m'inspiraient et qui continuent d'ailleurs à m'inspirer jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne comprenais pas que ces mêmes gens avec qui j'avais eu j'avais connu la faim, j'avais connu la révolte, avec qui on a attendu le passage de Hassan II pendant des heures et des heures, avec qui j'avais tout connu de la vie, dans ce qu'elle a de bien et de mauvais, et de tragique et de sorcier. Tout d'un coup, ces mêmes gens qui sont moi, qui sont comme moi, tout d'un coup me disent que je n'étais pas comme eux et qu'il fallait que je me conforme à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il fallait que je me tue moi-même. Puisqu'ils ne pouvaient pas me tuer, il fallait que je tue quelque chose en moi.
Mais comment, de manière très concrète, en vous habillant autrement, en ayant des mouvements corporels différents, en ne marchant pas dans la rue de la même manière? Parce que vous êtes très précis aussi dans vos bouquins.
Oui.
On se souvient de la cour, de la maison où vous habitiez, on se souvient de la rue de Salé, on se souvient même de l'ombre et de la lumière. Qu'est-ce qu'on vous a fait à ce moment-là? Est-ce qu'on a essayé de rabattre votre identité vers quelque chose que vous n'étiez pas?
Je pense que ce qui s'est passé, c'est tout d'un coup, je devenais à la fois quelqu'un à exclure, mais en même temps quelqu'un qui est au centre de toute une dynamique sexuelle qui ne marchait pas. C'est-à-dire, on a beau interdire le sexe aux gens, les gens, ils ont besoin de faire du sexe, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Mais dans le pays où je vivais, le Maroc, comme on ne pouvait pas faire telle ou telle chose, il fallait bien que quelqu'un soit sacrifié. Donc, j'ai compris que cet être qui allait être sacrifié, c'était moi. Et ce qui était le plus terrifiant et terrible pour moi, c'est que personne n'allait me sauver. Certainement pas mes parents, certainement pas mes sœurs. Alors aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait, ces gens. Parce que eux-mêmes, s'ils avaient défendu quelqu'un qui est homosexuel dans la société où on vivait, ils auraient subi des conséquences graves, eux aussi. C'est-à-dire qu'eux, ils ne faisaient qu'appliquer ce qui avait été décidé là-haut, par les gens qui géraient le Maroc, qui géraient les individus marocains, les sujets marocains, pour bien les nommer. Donc moi, homosexuel au milieu de tout ça, à la fois, il fallait que je me débrouille pour sauver ma peau, mais en même temps, assumer toutes ces choses qui ne marchaient pas dans la société concernant le sexe. Alors, ce que j'ai fait concrètement, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'Actor Studio maintenant. J'ai l'impression que j'ai passé de longues semaines à préparer le rôle que j'allais désormais jouer dans la vie, dans le théâtre de la vie, les rues, et surtout à faire entrer dans ma tête une forme de grille de lecture du monde, une forme de scanner du monde, c'est-à-dire repérer qui va me faire du mal, comment déjouer le mal, comment s'adresser au monde, comment mentir au monde. Et ça peut peut-être choquer, mais pour moi, presque être homosexuel, c'est être un grand menteur. Plus grand menteur que les autres. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas dire la vérité au monde. On ne peut pas leur dire qui on est. On ne peut pas les laisser même deviner ce qu'on est. Donc, vous voyez, c'est toute une série comme ça d'assassinats de soi-même, au fond.
Oui, assassinat de soi-même. D'ailleurs, dans vos bouquins, Abdel Attaya, on a l'impression que vous comprenez très jeune que vous suscitez le désir d'homme, vous allez accepter, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, vous allez peut-être immoler et sacrifier peut-être votre propre désir dans le désir des autres.
Ça, je pense, c'est ça qui est le plus difficile à la fois à comprendre à ce moment-là, mais en même temps, on est en plein dedans dans cette stratégie autour de vous. Parce qu'il faut bien dire les choses. C'est pas parce que les musulmans sont des musulmans qu'ils ne font pas de sexe entre eux. Parce que c'est des êtres humains, et ils ont besoin de faire du sexe. Le roi ou la religion, je ne sais qui d'autre, ont beau leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès librement au corps des autres. Ça, c'est de la théorie. Ils peuvent le répéter ad vitam aeternam. Et ils peuvent s'en faire l'écho où ils veulent. Mais la réalité, ce qui se passe sur la terre, si je peux dire, entre ces individus, ce qu'ils ont besoin sexuellement aussi des uns des autres. Et moi, parce que j'étais justement différent, je voyais tout ça. Et les gens se permettaient...
Mais vous le subissiez aussi dans votre propre corps.
C'est deux choses. À la fois, il y avait des viols, il y avait des insultes, il y avait tout un sujet. Mais ça, presque avec le temps, j'ai fait tout un tas de stratégies pour être plus fort que tout ça, l'anticiper, ne pas tomber dedans.
Vous saviez peut-être que vous alliez l'écrire, ça, cette histoire-là. Moment où vous l'aviez.
Non, parce que vous viens d'un monde très pauvre et où l'idée même d'écrire, c'est tellement loin de tout ça. Le cinéma, oui, était là. Les films égyptiens, ça me permettait de rêver, de résister d'une certaine façon. Mais être comme ça dans le désir des autres pour revenir, c'est très important. C'est quand on est comme ça au milieu de tout un tas de choses qui vous dépassent, inventées par je ne sais qui depuis très longtemps, depuis des siècles. Et puis, parallèlement à tout ça, l'histoire du colonialisme, les Français, ce qu'ils ont laissé au Maroc, et puis les Marocains, comment ils se comportent par rapport à tout ça, tout ce que les Français diront d'eux, tout ce que l'Occident dira d'eux. Aujourd'hui, je comprends que j'étais au milieu de tout ça et que je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre. Parce que je ne sais pas comment on survit au viol, je ne sais pas comment on survit quand quelqu'un non seulement vous rabaisse parce que vous êtes pauvre et que la pauvreté se lit sur vous, mais aussi parce qu'il sait par quelqu'un qui a dit à quelqu'un que vous êtes éventuellement quelqu'un de disponible facilement sexuellement. Donc vous voyez, c'est à la fois être dans cette tragédie sexuelle, mais en même temps avoir presque un regard assez exclusif sur les stratégies et la vérité nue de ces êtres, ce qui se passe réellement. Je pense que l'écriture, maintenant je peux dire que l'écriture vient de là, de ce regard exclusif qui se passe évidemment dans beaucoup de tristesse et de larmes et de désolement. C'est tout ça qui a donné une forme à la fois de grille de lecture du monde, qui est à la fois aujourd'hui mais nécessaire, mais qui en même temps m'emprisonne, parce que ça m'empêche jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, d'être totalement à 100% avec quelqu'un. Être avec l'être, je ne sais pas ce que ça veut dire se donner à quelqu'un, pour le dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je peux le comprendre intellectuellement en lisant les livres, en regardant les films, mais dans le lien intime, amoureux, sexuel, aujourd'hui avec quelqu'un, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Donc l'écriture, elle vient de comment dire, à la fois de cette organisation hyper sophistiquée et du chaos qui en résulte d'une certaine façon.
Nous allons écouter la voix de Jean Genet. C'est une archive non datée.
Je ne sais pas si on a parlé à mon propos du sentiment ou de l'expression plutôt, l'expression poétique qui fait tout basculer et qui fait qu'un crime n'est ni respectable ni pas respectable, mais tout simplement de la poésie. Je voulais dire que deux mots accolés, ou trois, ou quatre, et deux phrases peuvent être plus poétiques qu'un meurtre, par exemple. Et que si j'avais à choisir entre l'expression poétique par des mots, ou si elle existe, l'expression poétique par des actes, je choisirais l'expression poétique par des mots.
Être criminel, mais d'abord criminel de soi-même, bien sûr, tant que Jean Genet. Évidemment, c'est quelqu'un qui a fini par compter beaucoup pour moi, parce qu'à l'époque, quand il venait au Maroc, moi, j'étais encore un enfant et un adolescent. Mais quand j'ai appris que son plus grand amour, sa plus grande histoire d'amour était avec le funambule Abdallah, avec A, et non pas E comme moi, ça a créé un lien encore plus, comment dire, plus amoureux, romantique avec lui et avec l'idée du mal qui est inscrite dans toute son œuvre.
Il est d'ailleurs enterré au Maroc.
À l'arrache. Et s'il y a bien une chose autour de laquelle je tourne, ou autour de laquelle je ne cesserai jamais d'écrire, c'est bien cette question du mal. Comment on est poussé pour sa survie, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, vers le mal, vers le mensonge, vers le meurtre, vers une certaine forme de crime. Donc, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Alors je sais très bien que le monde dans lequel on vit nous pousse vers la réconciliation avec soi-même, vers une forme de bien-être, de bonheur et de... Mais je pense qu'il est très 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 difficile de sortir de... du lieu où le premier meurtre a eu lieu. C'est tout ça, pour moi, totalement impossible. Parce qu'en même temps qu'on vous fait ça, on vous demande de l'accepter et de l'oublier, et de faire plus tard, quand vous avez 40 ans par exemple, comme moi maintenant, de faire comme tout cela n'a jamais existé. Et quand on comprend qu'effectivement, quelque part, tout cela n'a peut-être jamais existé et qu'il n'y aura jamais quelqu'un dans la vie, une personne pour comprendre, se tenir ou vous porter. Je pense que la tragédie ne fait, personnelle, hein, je parle d'un point de vue personnel, ne fait que se renforcer. Tout à l'heure, je parlais de colère. C'est cette colère. Vous voyez, c'est comme dans certains tableaux où on voit des femmes qui crient. Ouais, dans l'histoire de la peinture occidentale, il y a beaucoup le massacre des innocents. Il y a Isabella Gianni, donc Camille Claudel, quand elle va voir Auguste Rodin en bas, et tout d'un coup elle crie Rodin, Rodin. Vous souvenez dans le film, tout d'un coup elle lance un cri. On a l'impression le premier cri du monde. Voilà, c'est ça ce que j'avais envie de faire quand tout cela se passait pour moi. À l'époque, le début de l'adolescence, et que je crois d'une certaine façon, pas d'une certaine façon, d'une manière affirmée, ressort dans ce que j'écris, c'est-à-dire le cri impossible dans la vraie vie. Aujourd'hui, si je m'étais écrit ici, sur France Culture, les gens me prendraient pour un sauvage, pour un non-civilisé, ou pour quelqu'un qui n'est pas éduqué, parce qu'il crie. Et pourtant, le cri assourdissant, le cri hanté, possédé, le cri pour sortir de soi-même toutes ses entrailles, c'est ce qui nous reste, ultimement.
Vous ne criez pas. Quand on vous lit, on a plutôt l'impression que vous murmurez, Abdelataya. Et vous avez une écriture assez sèche, avec des phrases assez courtes. Une écriture qui nous entraîne très loin, parce qu'elle n'explique rien, mais elle suggère beaucoup. À chacun d'entre nous lecteurs de se faire son propre cheminement à l'intérieur de ce que vous écrivez. Et ce que vous écrivez, pour reprendre un terme d'un de vos titres, c'est vraiment la tension entre la mélancolie, la jouissance et finalement le fait que le plaisir ne peut jamais être exaucé.
Il n'est presque jamais là. J'écris, mais je le fais en français. C'est très important. Le chemin que j'ai fait de ce monde très pauvre où je n'étais pas seulement celui à subir des crimes, hein, j'étais pas la seule victime. Mes parents aussi, d'une certaine façon, étaient des victimes de tout le Maroc, de tout un roi, de tout un peuple. Donc, pour arriver jusqu'au français, il a fallu survivre. Je ne sais pas comment, mais il a fallu survivre. Quand j'écris, je ne peux pas écrire pour expliquer. Je ne peux pas écrire pour penser. Je ne peux pas écrire pour donner des leçons. Je ne peux pas écrire pour briller ou montrer que je parle très bien le français et acceptez-moi ici en France ou ailleurs parce que je parle très bien français. J'écris parce qu'il y a, je pense, encore une fois, des moments assez fous, assez mystérieux, assez violents. Et j'ai envie de les faire. Alors, je suis un peu déçu que, à chaque fois que j'écris, qu'il n'y ait pas cette violence, ne ressorte pas aussi violemment que je voudrais qu'elle ressorte.
Oui. Mais la violence feutrée, c'est peut-être la pire.
Alors dans ce cas-là, je suis heureux. En tout cas, ne surtout pas entrer dans une forme narrative déjà préexistante où je vais m'inscrire en tant qu'arabe, musulman, homosexuel, avec tout ce qui est attendu de quelqu'un comme moi venant de ce pays avec ce genre de qualificatif. Mais plutôt revenir, et c'est ça le plus important pour moi, à un lieu, enfin qui est toujours le même, où une forme de mystère a eu lieu, où finalement les choses ne s'expliquent pas. Et où surtout il y a eu des mélanges de beaucoup, beaucoup de choses. Des mélanges, les mélanges de corps, les mélanges des odeurs, les mélanges des histoires, les mélanges des voix. Les voix, parce que j'ai grandi avec des femmes possédées autour de moi, hantées par les djinns et les esprits. Elles parlaient. Tout d'un coup, elles tombaient, de leur corps sortaient d'autres voix. Et on disait ça, c'est les voix des djinns, les voix des esprits, les voix des maîtres. C'est ce genre de voix qui finissent par ressortir dans murmurées, secs, d'une manière sèche dans ce que j'écris. Je n'écris certainement pas pour résoudre quoi que ce soit, hein, qu'on soit d'accord. Je pense que j'ai fait tous ces livres, peut-être même le film, pour parce que j'ai fini, moi aussi, par comprendre que j'étais possédé comme mes sœurs.
Je vous propose d'écouter deux sorcières possédées des djinns. Vous allez les reconnaître. Elles chantaient la rumba des îles, c'était en 1980.
Dessous le Bengale,
cette poussière là-bas,
Calcutta centrale,
cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs,
la lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ses joncs.
Le riz. Elle vont vers le grand Mandel.
Sur les talus, ses taches sombres.
Les gens. La densité la plus élevée du monde.
Ses miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ses lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui. Le jour vient.
Cet amour.
L'amour.
On danse à l'autre bout du hall.
Les touristes de Ceylan.
Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois, elles ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
Morte là-bas.
Aux îles. Trouvée morte. Une nuit.
Ce mot.
Désir.
Celle qui vient. Dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle.
C'est ça. Elle vient de Birmanie.
Maigre. À Calcutta, elles étaient ensemble.
Oui. C'était pendant les mêmes années.
Ah, merci beaucoup d'avoir passé cette chanson. J'adore la matérialité de l'écriture de Marguerite Duras. Cette précision géographique, un mot suffit, prononcé de telle manière pour dire tout un monde. On n'a pas besoin de tout autre baratin littéraire, juste comme ça, deux voix, l'une après l'autre, qui disent précisément, avec d'une manière matérielle. Et j'ai toujours adoré ça chez Marguerite Duras, cette façon de ne pas avoir peur de parler, de ne pas être littéraire, de ne pas être dans une surenchère de la littérature, mais dans quelque chose de très... très précis, très sec. Voilà. Elle n'avait pas peur de parler d'argent. Elle n'avait pas peur de je sais pas comment dire. Elle n'avait pas besoin d'être dans d'autres idées pour dire le monde. Il suffit de prendre le monde et de le jeter, de le cracher dans la littérature. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Elle disait aussi que n'importe qui d'entre nous pouvait écrire. Vous pensez qu'elle a raison?
Ah, je pense parfaitement qu'elle a raison. D'ailleurs, la culture n'est pas que pour les gens cultivés. faudra le dire et le redire. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études universitaires qu'on a obtenu tel ou tel.
Vous avez fait des études universitaires.
J'ai fait ça
quand vous êtes arrivé à Paris.
Je l'ai fait parce que j'ai compris, justement pour sauver ma peau, qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Non seulement j'ai compris qu'il fallait faire des études universitaires, mais qu'il fallait apprendre la langue française. Parce que même si cette langue n'était pas pour les pauvres comme moi, et que quand je prononçais quelques mots en français à l'époque de l'adolescence, les gens riaient de moi parce que ça faisait pauvre, j'ai compris que c'était la langue du pouvoir au Maroc, la langue de l'élite marocaine, la langue des intellectuels. Et donc ces mêmes gens qui nous méprisaient et qui nous rabaissaient à travers la langue française, il n'y avait pas d'autre chemin que d'apprendre leur langue et de la maîtriser mieux qu'eux, presque, d'une certaine façon. Donc écrire aujourd'hui en français, écrire en français pour moi, est tout sauf une affaire de romantique.
Vous êtes devenu un écrivain français.
Je suis devenu un écrivain français parce que j'écris en français, non pas comme les Français l'attendent, mais parce que une forme de colère initiale et de guerre initiale, y compris avec la langue française, continue de se produire jusqu'à aujourd'hui. Le jour où je n'aurai plus cette colère, je pense que plus rien d'intéressant n'en sortira de moi. Parce que je me sens encore diminué dans cette langue pratiquée par les riches marocains de cette manière-là, pour mépriser les autres et leur dire « vous, vous n'êtes que des pauvres marocains, vous ne parlez que l'arabe, on vous jette l'arabe, nous c'est le français, on va à Paris, on l'étudie dans les grandes écoles françaises et on revient vous mépriser encore une fois ». Moi, je ne veux pas parler ce français-là comme eux, je ne veux pas l'écrire comme eux, et je préfère rester pauvre, très très pauvre, avec mon pauvre français, avec les mots que je ne connais pas très bien en français, et écrire, faire quelque chose avec ça. Je ne pense absolument pas que l'écriture, que l'art se passe dans la maîtrise. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est pas parce qu'on domine un sujet qu'on est capable de produire quelque chose. Je pense que c'est parce qu'on est inspiré et poussé par quelque chose de très fort, souvent très violent, qui nous demande de faire telle ou telle chose. Et on y va, on y croit, même si on n'a pas toutes les solutions.
Tout à l'heure, Marguerite Duras parlait de l'amour. On sait ô combien, de manière magnifique, comment elle a abordé ce thème de l'amour. Vous, vous y croyez encore? Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit que vous aviez 42 ans et que vous ne vous êtes jamais donné. Croyez-vous encore en l'amour?
Je pense que je n'ai pas d'autre choix que d'y croire, même si à chaque fois je retombe sur les répétitions. C'est terrible, les répétitions de la vie. On croit qu'on s'est affranchi de quelque chose. On prend le temps pour faire le bilan de ce que la société moderne demande, s'occuper de soi, aller voir peut-être un psy ou prendre des pilules. Et paf, on croit qu'on est guéri et puis on rencontre quelqu'un. L'amour a lieu et on se déshabille, on va au lit et... rien n'a été réglé, et tout recommence. Donc, il y a un désespoir qui s'installe, mais renoncer à l'amour, non, ça serait un peu déjà mourir, et je n'ai pas envie de mourir pour l'instant.
Et votre corps, parce que du corps, vous parlez beaucoup dans tous vos bouquins, Abdel Attaya, des corps qui apparemment sont vivants, mais à l'intérieur, ils ne le sont plus tellement. Ils ont tellement été agis par la mécanique d'un désir obsessionnel et répétitif que, en quelque sorte, ça répond plus.
Vous savez, j'ai dormi dans la même pièce jusqu'à l'âge de 16 ans avec mes 6 sœurs, ma mère et mon petit frère. Donc pendant 16 ans, j'ai vu ce que c'est le corps des femmes, mes sœurs. Je les ai vues nues devant moi, elles songeaient ce qui les traversait. Donc tout ce qu'il y a en elles, comme désir, comme frustration, comme projet romantique et politique, est en moi. Donc, je pense que l'écriture que je fais, elle prend aussi ces désirs-là. On ne peut pas faire autrement que de suivre, non pas l'amour, mais les chemins noirs des désirs qui sont en nous. Il n'y a pas d'autre choix.
Merci beaucoup, Abdel Attaya. Je rappelle les titres de vos livres, Le Rouge du Tarbouche, L'Armée du Salut, Une Mélancolie Arabe, Lettre à un jeune Marocain, Le Jour du Roi, Infidèle, au pluriel, Un pays pour mourir, et je rappelle que l'Armée du Salut a donné lieu aussi à un magnifique film avec un titre éponyme. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Corinne Amar, Samuel Bernard et Elodie Royer, merci à Pierre Monteil et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture.